écoute sur RCN, Christophe Chevardet.
Madame, mesdemoiselle, messieurs, un grand bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir de faire la surprise à un copain d'inviter sa fille comme invité. Le sujet est sérieux pour autant et je ne savais pas trop comment l'aborder. C'était un sujet que j'avais envie d'aborder dans I Feel Good. L'émission porte bien son nom et c'est pas forcément facile de parler de la fin de vie. J'ai eu la chance de rencontrer Anaïs. Anaïs Martin, elle est infirmière en soins palliatifs.
So good, so good.
On salue tes parents, Anaïs, ça c'est fait.
Et bonjour.
Et oui, c'est un sujet que j'ai toujours voulu aborder dans l'émission I Feel Good parce que c'est pas facile de parler de la fin de vie quand on veut parler de Feel Good. Comment on peut se sentir bien? Comment on peut être un peu en paix pour parler de la fin de vie?
Et ben c'est justement là tout l'intérêt chez nous, en tout cas des soins palliatifs. C'est-à-dire que la fin de vie, alors certes, en plus, c'est assez tabou dans notre société, encore actuellement, mais l'idée, c'est de faire en sorte justement que cette fin de vie, alors, soins palliatifs, c'est pas forcément la fin de vie imminente, c'est pas forcément la phase qu'on appelle, nous, agonique. Quelqu'un peut être en soins palliatifs et y rester pendant des années, c'est juste, en fait, qu'il a atteint d'une maladie qui est incurable, dont il ne guérira pas, du coup.
C'est ça, les soins palliatifs.
Atteint d'une maladie dont on ne guérira pas et qui, malheureusement, nous emportera.
D'accord.
Voilà. Mais c'est pas forcément. Voilà, souvent, on a des patients qui s'inquiètent en disant on m'a passé en soins palliatifs, je vais mourir. Oui, certes, mais en fait, pas forcément tout de suite. On peut être en soins palliatifs pendant des semaines, des mois, voire potentiellement des années.
Ça arrive ?
Ça arrive, oui, totalement. On a même des patients qui arrivent chez nous pour équilibre antalgique, par exemple, ou autre, qui repartent un peu à la maison et puis qui reviennent et puis qui repartent encore. Donc voilà, c'est pas forcément la fin de vie imminente. Et justement, l'intérêt, nous, c'est de prendre en charge tous les symptômes. Que ce soit l'anxiété, que ce soit la douleur, que ce soit tout signe d'inconfort, et de faire en sorte que la personne et son entourage, parce qu'on prend aussi en soin l'entourage, vivent de la meilleure façon possible jusqu'à la fin. Mais nous, on ne décrit pas ça comme la fin de vie ou comme la mort, en fait, c'est la vie. C'est, voilà.
Donc, c'est quand même, on ne va pas dire feel good, mais il y a quelque chose à vivre.
Exactement, il y a quelque chose à vivre et on le fait en sorte que ça se passe le mieux possible.
Et est-ce qu'on peut parler un peu de feel good quand même? Est-ce qu'on peut... partager des bons moments ensemble.
Ouais, totalement. Enfin, si vous passez à l'improviste de notre service, vous verrez que généralement, on est toutes souriantes, on sourit tout le temps. J'ai encore une de mes collègues ce matin avec qui on travaille souvent, qui rigolait encore avec un patient. Et on a encore des très bons moments, et nous, et eux également, et avec leur famille. Donc on a le feel good aussi, oui, totalement.
C'est important même de l'avoir ?
C'est vital.
Alors, on va rester sur le champ professionnel et puis on verra sur le champ perso comment on équilibre tout ça, si tu veux, Anaïs. Hein, y a toujours une grande liberté d'expression et puis de respect de la parole de l'invité pour pas aller dans les champs qu'elle ne veut pas aller. Ce choix du soin palliatif dans la société d'aujourd'hui, il t'est venu comment ?
Le fait d'y travailler, ouais. D'y être.
Alors, qu'est-ce qui a fait que une jeune, t'as la trentaine, hein, une jeune fait ce choix fort?
Des circonstances de vie qui ont fait que quand j'étais plus jeune, donc on va dire, du coup c'est ma première date.
C'est ma première date, c'est parce que dans l'émission, on a l'habitude de proposer aux invités de trois dates importantes dans leur vie.
Et donc, du coup, voilà, ça regroupe, on va dire, un petit peu le 1er février. Quand j'avais 13-14 ans, ma grand-mère est tombée malade. On l'a accueillie à la maison avec, du coup, ce qu'on appelle l'HAD, donc l'hospitalisation à domicile. Et en fait, j'ai adoré ça, enfin, a posteriori, naturellement, mais je ne m'en suis pas rendu compte. C'est-à-dire que je ne me suis pas rendu compte que les infirmières passaient parce qu'elle était malade. Je ne me suis pas rendu compte que les aides-soignantes passaient parce qu'elle était malade. La seule chose que je retiens de cette période, c'est Viviane. Donc, si jamais elle entend, d'ailleurs, je la salue parce que je ne l'ai pas revue depuis. Mais en fait, c'était sa dame de compagnie que mes parents avaient embauchée pour s'occuper d'elle parce que malheureusement, ils devaient encore travailler. Et en fait, j'ai encore l'image de rentrer de l'école et de les voir toutes les deux sous le plaid à regarder la télé. Et en fait, Viviane, c'était un rayon de soleil pour ma grand-mère. Et du coup, je me suis dit que un jour, moi aussi, finalement, j'aimerais bien être ce fameux rayon de soleil et procurer ce bien aux patients et à leur famille. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas infirmière? Et voilà.
Quand les personnes arrive dans un service de soins palliatifs. Tu as évoqué tout à l'heure une des choses qu'on a à traiter, c'est l'anxiété. C'est parce que c'est l'une des premiers signes, symptômes qu'on peut voir.
En tout cas, c'est l'un des plus récurrents. L'anxiété et la douleur, mais pour être honnête, les deux sont étroitement liés. Et souvent, oui, nos patients sont très anxieux, ils ont des thérapeutiques qui sont mises en place, alors médicamenteuses ou non, ça nous arrive aussi, régulièrement même, mais oui, c'est des patients qui peuvent être anxieux parce qu'ils ont peur d'avoir mal, parce qu'ils ont peur de souffrir, parce qu'ils ont peur de mourir, ou de savoir en tout cas comment et dans quelles circonstances ils vont mourir, d'abandonner leur famille, et donc souvent, oui, c'est des patients qui sont anxieux.
Comment on apporte des solutions professionnelles que vous êtes ?
Alors, on a toutes les solutions du coup qui sont de base thérapeutique, naturellement. Mais au-delà de ça, on a la présence. Et c'est pour ça que souvent, les patients, quand ils sont chez nous, bah, c'est un service qui leur convient plutôt bien. Parce que par rapport à d'autres secteurs, on a la chance d'être beaucoup plus nombreuses, de pouvoir prendre plus soin. On a plus de temps à consacrer à chaque patient et à sa famille. Et ça, c'est quelque chose... Voilà, ça les aide énormément là-dessus. Et on a également des prestataires diverses sur l'hôpital. Donc certes, on a les infirmières, on a les aides-soignantes, on a les psychologues qui font énormément de travail. Mais on a également une musicothérapeute dans notre service. On a une socio-esthéticienne.
Et en fait, alors, qu'est-ce qu'elles font ?
Alors, la musicothérapeute, elle joue des instruments qu'on n'a pas vraiment l'habitude d'entendre en temps réel, pour être honnête. Et généralement, elle passe dans les chambres de patients qui sont volontaires. Et elle leur joue des petites musiques. Donc, c'est vraiment des musiques douces. Enfin, ça nous fait, en fait, nous évader. C'est très plaisant. Elles leur font des petites séances. Donc, elle est là deux demi-journées par semaine. Et la socio-esthéticienne, bah, concrètement, c'est comme une esthéticienne, mais qui travaille dans notre service, deux demi-journées aussi. Et elle va leur faire ce qu'ils veulent. Donc des soins des mains, des soins du visage, des massages, les ongles, une épilation, au choix.
D'accord. D'autres services ? Tu évoquais des prestataires, c'est possible.
Alors, elles, c'est les deux, en tout cas, me viennent tout de suite et qui interviennent. Mais on a également des soignants qui sont formés à, par exemple, de l'hypnose. Voilà. On a un casque de réalité virtuelle aussi en secteur qu'on utilise et en équipe mobile aussi.
Et n'importe quoi alors là ?
Eh ben alors, énormément de détente, énormément de relaxation.
Ah ouais.
Il peut être très utile aussi pendant les soins quand un patient, par exemple, peut être douloureux. Ça leur fait penser à autre chose, ça les fait s'évader. Et souvent, les patients sont même redemandeurs après par la suite.
D'accord.
Oui. Alors après, on a les casques. Nous, c'est un casque de réalité virtuelle spécifique pour le domaine médical, pour l'hôpital. C'est pas celui où on joue en ligne. C'est vraiment détente, le relaxation.
Ça s'approche de la sophro
de la sophrologie, de l'hypnose, oui.
Le soin, alors, on a parlé de l'accompagnement, tu disais le temps. Ça veut dire que... On a des soins à porter aujourd'hui. Ma question derrière, c'est est-ce que on doit faire évoluer les lois ? Est-ce qu'on doit faire évoluer les réglementations ?
Alors au niveau des lois et des réglementations, bah, comme tout le monde le sait, là pour l'instant c'est en pause avec la dissolution de l'Assemblée.
Un projet de loi qui est
prévu, exactement.
Attendu
pour beaucoup de personnes. Bon, en tout cas, moi personnellement, je pense qu'un jour il finira par passer. Parce que c'est une grosse demande des Français.
Alors, passer quoi ?
Qu'ils accepteront la loi sur l'euthanasie ou sur le suicide assisté. J'ai pas vraiment, moi, personnellement, par contre, d'avis sur la question. Tout simplement parce que on a souvent des patients qui rentrent en secteur et qui nous demandent tout de suite l'euthanasie. Mmh. Et en fait, on se rend compte que passer des patients...
Donc ça, c'est vraiment une demande ?
Une demande.
Réelle, on l'a quand même. Importante ?
Oui, une demande assez importante. Et finalement, on se rend compte que bah, si ces patients nous demandent l'euthanasie, c'est parce qu'ils sont trop anxieux, c'est parce qu'ils sont trop douloureux, c'est parce qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Et une fois qu'on arrive à équilibrer un petit peu tout ça, bah, je ne dis pas tout le temps, mais en tout cas très régulièrement, ces patients ne veulent plus mourir derrière. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a eu une solution autre, on va dire, qui est proposée maintenant depuis 2016, avec la loi qui s'appelle Claeys-Leonetti. On a le droit maintenant en France à la sédation profonde et continue, maintenue jusqu'au décès. C'est une alternative qui nous propose actuellement à l'euthanasie, qui est bien faite. C'est-à-dire qu'en fait, si une personne a vraiment des symptômes très pénibles et qu'on n'arrive pas à équilibrer et qu'on ne peut rien faire pour
ça... Équilibrer, c'est-à-dire
Alors, c'est-à-dire qu'on a essayé, par exemple, avec divers moyens, qu'ils soient thérapeutiques ou non, avec la visite de psychologues, avec la visite de différents médecins, voilà, et que finalement, bah, on ne peut rien faire et que ce patient est toujours inconfortable. et qu'il est naturellement atteint d'une maladie incurable à plus ou moins court terme, voire très court terme, on peut lui proposer cette solution, c'est-à-dire en fait on l'endort pour qu'il meure dans son sommeil. On ne l'euthanasie pas. Il peut mourir tout de suite, comme par exemple une semaine ou 15 jours après, mais il mourra de sa maladie, mais en dormant. Et du coup, généralement, quand on fait un sondage au niveau de la population française et qu'on leur demande bah, « Comment voulez-vous mourir ?», la plupart des gens répondent « Dans mon sommeil ». Et c'est ce qu'on propose actuellement.
Mmh. Et donc là, vous voyez les signes que la douleur n'est plus au rendez-vous ?
Quand on n'arrive pas du tout à l'équilibrer, on essaye, mais on sait des fois dans certaines circonstances qu'on a beau tenter, on a beau augmenter les thérapeutiques, le problème c'est que plus on augmente et plus en fait le patient va s'endormir par lui-même à cause des thérapeutiques. Donc on le sait que souvent, et très très souvent même, on arrive à équilibrer. On arrive à trouver, pas forcément à l'enlever complètement, mais à trouver un palier supportable. Mais des fois c'est pas possible malheureusement. Et du coup on a cette solution.
Bien sûr, là, d'accord. Oui. Les familles, comment on partage aussi ces moments et ces choix de sédation ou d'accompagnement sans aller jusqu'à la sédation?
Ils sont toujours présents. Alors, je ne vais pas dire dans les décisions, parce qu'à chaque fois, la décision est réellement d'ordre médical, mais ils sont concertés.
Donc là, c'est bien le corps médical qui décide.
Alors, la solution finale, oui. Mais par contre, c'est quelque chose qui se passe avec les médecins, avec les infirmières, avec les aides-soignantes, avec le patient, naturellement. Parce que si le patient ne veut pas quelque chose, il ne l'aura pas. Ça fait partie des lois. Et la famille est toujours concertée, peu importe la question, peu importe la décision. Que ce soit sa famille, sa personne de confiance ou les amis, voilà, les amis proches, mais son entourage proche est toujours concerné. Ça fait vraiment partie, et c'est la définition des soins palliatifs. C'est-à-dire que tout l'entourage du patient fait partie aussi de la prise en soin et pas uniquement le patient.
Autour, il y a un réseau qui peut se mobiliser. C'est l'objet de la deuxième partie de l'émission. On va parler de votre association,
oui.
Bulle de Vie, dans quelques instants. Auparavant, on fait toujours une petite pause musicale. Pourquoi ce choix ?
De la musique ?
Ouais.
Eh ben, parce que cette musique, c'est la définition, même pour moi en tout cas, des soins palliatifs. Et c'est comme il le dit, donc grand corps malade dedans, c'est ensemble, enfin tout seul en tout cas, on va vite, mais ensemble on va loin. Et ça parle de l'esprit d'équipe et c'est la base des soins palliatifs.
À celui qui veut construire sa maison tout seul, à celui qui pense que l'enfer c'est les autres, à celui qui ne tend jamais la main par orgueil, à celui qui préfère dire le mien que le nôtre, à celui qui pense qu'on doit être seul pour être libre, qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Moi je dis que j'ai besoin des autres pour bien vivre, j'affiche l'esprit d'équipe comme un emblème. Tout seul je vais vite, ensemble on va loin. L'esprit d'équipe comme un besoin. Tout seul je vais vite, ensemble on va loin. L'esprit d'équipe comme un besoin. L'homme est un animal qui est fait pour vivre en meute. Tout seul il s'ennuie, il stagne, il se perd. Il est pour son voisin le meilleur thérapeute. Il est pour ses prochains le plus fiable des repères. Parce que plus que jamais, j'aime la force de l'équipe, la puissance du collectif, je l'ai vécu et j'y crois. Et même si je suis toujours mauvais en mathématiques, je pense que chez l'homme, 1 plus 1 égale 3. Tout seul, je vais vite. Ensemble, on va loin. L'esprit d'équipe, comme un besoin. Tout seul, je vais vite. Ensemble, on va loin. L'esprit d'équipe, comme un besoin. Les hommes sont plus forts quand ils savent leurs faiblesses. Chaque interaction est féconde, explique-leur. Que l'entraide et le partage, c'est l'avenir de l'espèce. Quand la vie est trop lourde, portons-la à plusieurs. Tout seul, je vais vite, ensemble, on va loin. Quand j'ai fait ma partie, je peux passer le témoin. Tout seul, je résiste, ensemble, on craint rien. On progresse, on grandit et putain, on rigole bien. Tout seul, je vais vite, ensemble, on va loin. L'esprit d'équipe, comme un besoin. Tout seul je vais vite, ensemble on va loin. L'esprit d'équipe, comme un besoin. Tout seul je vais vite, ensemble on va loin. L'esprit d'équipe, comme un besoin. Tout seul je vais vite, ensemble on va loin. L'esprit d'équipe, comme un besoin.
encore malade ensemble.
I Feel Good sur RCN, Christophe Chevardet.
I Feel Good avec Anaïs Martin pour parler des soins palliatifs, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. J'espère que nous avons pu faire dans cette première partie d'émission la preuve que nous pouvions parler de sujets qui touchent à la fin de vie tout en se disant on peut partager un peu de feel good. On peut partager du feel good plus personnellement maintenant, Anaïs. On partage des moments avec les familles, on partage des moments avec les patients qui donnent un peu une énergie.
Donc, des moments de notre vie à nous ?
Ouais.
Totalement.
Ouais.
Ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises de discuter, par exemple, de ma fille avec des patients, de leur montrer des photos, d'échanger, de parler de mes passions à côté. Donc oui, on échange énormément et on sait beaucoup de choses sur eux. Et en fait, moi, je pars du principe qu'ils ont le droit aussi, quand ils se posent des questions, en tout cas, de savoir des choses sur nous.
On voit bien, tu disais, il y a une partie soins indéniables et puis il y a une partie accompagnement.
Oui.
Particulièrement importante, évidemment.
Oui, et c'est ce qui fait justement la qualité des soins palliatifs et des services un peu comme le nôtre. C'est l'accompagnement, c'est le partage, c'est l'écoute. Et c'est ça qui fait une bonne prise en soin, en tout cas pour nos patients chez nous.
Ça veut aussi dire qu'on a des hôpitaux qui font bien leur boulot.
Exactement, totalement.
On peut se le dire un petit peu parce que...
Mais oui, c'est voilà, vrai, il faut dire toutes les choses positives et ça en fait partie. Oui.
Est-ce que ce métier... que tu as choisi dès le départ, j'allais dire, parce que les soins palliatifs, c'est ta première orientation professionnelle.
Oui, alors à la base, je voulais en tout cas faire infirmière.
Ouais.
Au tout début, je m'étais dit, bon, allez, lâche AD, donc comme du coup mon passif, ça peut être sympa. Mmh. Et puis finalement, je me suis rendu compte par la suite que bah oui, les soins palliatifs, c'était un accompagnement différent. L'écoute était importante, voilà, pour du coup quelque chose, enfin, d'encore assez intime dans ma vie. Mais mon compagnon, quand je l'ai rencontré au début, c'était très compliqué pour moi d'évoquer la fin de vie de ma grand-mère. Je n'en parlais pas. Quand mes parents en parlaient à la maison, je changeais de conversation, je changeais de pièce, je prétextais tout un tas d'excuses.
Pourquoi ?
Et en fait, parce que je ne pouvais pas, je me mettais à pleurer tout de suite.
Ah, d'accord.
C'était vraiment trop difficile.
Mmh.
Et en fait, il s'en est rendu compte, et c'est lui qui m'a forcée à en parler tous les deux. Et c'est là que je me suis dit que finalement, bah, l'écoute, en parler, discuter, échanger, c'était la base de toute relation. Et c'est là que je me suis dit, bah oui, les soins palliatifs, finalement, c'est ce qu'il me faut.
Ah ouais ?
Oui.
C'est comme ça que c'est venu ?
Bah, c'est venu comme ça, du coup.
Ah.
Entre la grand-mère et le chéri, voilà.
Est-ce qui explique la deuxième date importante dans ta vie ?
Exactement.
C'est la rencontre avec le chéri.
La rencontre avec le chéri, le 3 septembre 2011.
Alors, on salue le chéri, on salue le gros. Donc, tout ça, est-ce que tu peux dire que... je cherche les mots parce que c'est pas facile.
Oui.
La tension qu'il peut y avoir au boulot, pas forcément négative, mais c'est quand même une... c'est quand même des choses fortes qui se vivent. Ça contribue à t'apporter une énergie pour... plus personnel, pour le quotidien, pour vivre ton quotidien, toi.
Oui, on relativise. On relativise, on se prend moins la tête pour les petites choses du quotidien qui, finalement, bah, on ne devrait pas. Et oui, on se dit, en fait, voilà, ils sont tellement forts, ils vivent des situations et pourtant, ils restent souriants, ils restent... voilà. On a envie de faire pareil, en fait. On a envie de faire pareil, de rester de bonne humeur et on en a besoin de toute façon.
Est-ce que... il y a une éducation, un apprentissage à dire au revoir aux gens. Ce qui...
Alors, moi, quand j'ai commencé, je me rappellerai toujours...
les gens, bien sûr, c'est les patients, vous mettez les mots que vous voulez. Mais, voilà.
L'ancienne cadre de mon service, quand je suis arrivée, m'avait pris un entretien et m'avait dit de ne pas m'acquitter et que, généralement, ça prenait environ une année à trouver ses mots et la bonne façon de parler aux patients. Je pense que c'est vrai, parce qu'on n'a pas de... on n'a pas de fichier déjà écrit, on n'a pas d'exemple ou de fiche technique, si vous voulez. Juste,
il n'y a pas un modèle qualité qui est passé par là pour vous dire il faut reprendre ces mots-là.
On le fait à notre sauce, en fait.
Ouais.
Et généralement, c'est comme ça que les patients le ressentent le mieux. Et souvent, on le dit aussi, du coup, aux gens qui arrivent, aux familles qui ne savent pas trop quoi dire, aux étudiants, par exemple. Des fois, rien que le silence. Bah, nous, c'est vrai que généralement, c'est quelque chose qu'on n'aime pas trop. Silence, on parle plus, qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, des fois, bah, pour eux, c'est très bénéfique. Mais après, le but, c'est juste de rester humain, de prendre le temps, d'être patient, de les accompagner au mieux. Et et d'être honnête avec eux. Voilà. Moi, souvent, le patient, quand il me demande s'il va mourir, bah, en fait, je lui cache pas la vérité. Je lui dis que oui, mais qu'on va faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Je pense que l'honnêteté, c'est la base de tout. L'honnêteté, la discussion, et c'est la base de tout accompagnement.
En sincérité. Ouais,
en sincérité.
Jusqu'à présent, on n'avait pas abordé cette question. Oui. Voilà, mais c'est l'attention, l'écoute, le silence, mais
l'humain.
Aussi la sincérité.
Oui.
Le diagnostic est là, il est posé.
Oui. Bon,
les gens, les patients, pardon, savent.
Oui.
Quand je dis les gens, c'est pas péjoratif. Hein,
ah
c'est,
non, mais je le
ça
comprends
une
totalement comme
pour,
ça, bien sûr. Bien
sortir
sûr.
Du cadre, forcément.
Et on le dit souvent aussi, hein, certes, c'est des patients, mais en fait, ça reste des êtres humains
non,
avant
voilà,
tout.
C'est ça, ouais.
Donc, les gens, ça me va bien.
Le service s'organise un petit peu pour contribuer à améliorer un petit peu plus le quotidien à travers, tu le disais tout à l'heure, ça c'est l'hôpital qui met en place des personnels qui viennent apporter du soin esthétique,
oui.
de la musique, voilà. Mais aussi, vous êtes pris en main, vous avez monté votre petite assoce.
Oui, c'est ça. On a en fait récupéré du coup une ancienne association qui était là pour le pôle tout entier parce que les soins palliatifs font partie du pôle de gérontologie, donc gérontologie et soins palliatifs. Tous les services de gérontologie ont gardé leur association à eux. Et nous, du coup, on a renommé la deuxième, qu'on a appelée maintenant Bulle de Vie, parce qu'on trouvait que ça correspondait bien justement avec le message qu'on voulait faire passer. Et maintenant, ça fait 2 ans qu'on s'en occupe avec deux de mes collègues, que j'embrasse très fort si elles m'écoutent aujourd'hui.
Elles ont intérêt.
Elles ont intérêt, exactement. Et voilà. Et en fait, on l'a repris il y a 2 ans. Et certes, on a énormément de possibilités grâce à l'hôpital. Mais avec notre association, on essaye de faire encore plus pour nos patients, pour l'entourage, pour les familles, pour tous ceux qui viennent en tout cas chez nous. Et c'est pour ça que là, par exemple, on s'est battu pendant très longtemps et on a réussi à financer, grâce à l'association et aux dons des familles à côté, 1 an de télé pour nos patients, pour que certes, ils sont chez nous, ils sont en soins palliatifs, mais en tout cas, pendant 1 an, ils ont la radio, ils ont le wifi, ils ont la télé et ils ne déboursent rien. Et ça, c'était quelque chose de très important pour nous. Et on espère qu'on pourra continuer par la suite à pouvoir le financer d'année en année.
Donc cette petite association bien accompagnatrice de la fin de vie, Bulle de Vie.
Bulle de Vie.
Comme quoi on peut faire du feel good sur ces moments-là.
Oui,
hein, voilà,
totalement.
Bulle de Vie. Elle finance, tu l'évoquais, donc du wifi, de la télé, un peu de radio.
C'est ça.
Pourra réécouter cette émission, du coup, dans le service. Vous financez par du don, par de la cotisation, c'est ça ?
Alors, on a la cotisation de chacun.
Chacun, c'est beaucoup de professionnels du service, d'ailleurs.
Oui, on a une bonne majorité de professionnels du service. Si je ne dis pas de bêtises, actuellement, on est 28, mais on n'a pas forcément que des soignants ou des professionnels du secteur. On a aussi des familles qui ont été satisfaites des soins, qui, du coup, adhèrent pour pouvoir avoir un suivi de ce qu'on fait. On a des familles qui nous font des dons très importants.
Mmh.
On en a eu encore un, par exemple, ce matin. Et en fait, c'est grâce à eux qu'on arrive à financer diverses choses et diverses projets pour le service. Voilà. Alors après, on a énormément de choses qu'on veut mettre en place et je pense qu'il faudrait...
Allez, vas-y, monsieur, raconte un petit peu vos rêves, ce que vous avez envie de proposer.
Oui. Et déjà, le principe premier chez nous, c'est qu'actuellement, on essaye de récolter des fonds. Donc là, on a eu la télé, on veut perpétuer ça par la suite. On va faire une brocante le 13 octobre, justement, de cette année, à Dombasle, au nom de l'association.
Tous les bénéfices reviendront à la SOS.
Exactement, pour pouvoir financer des projets pour nos patients. On a beaucoup de soignants qui vont donner aussi des objets, mais si d'autres personnes, du coup, veulent, il n'y a aucun souci. On peut nous contacter sur les réseaux sociaux à Bulle de Vie, via notre adresse mail ou numéro de téléphone qu'on pourra communiquer après. Donc ça, il n'y a aucun souci. On fait le marché de Noël de l'hôpital aussi, donc où on va aller voir différents petits artisans de Nancy et différents aussi, ou autres même, de toute façon, pour pouvoir avoir des dons, des objets, pouvoir les mettre à la vente. Certaines de nos collègues fabriquent aussi.
Mmh.
Et en fait, le but, c'est d'enrichir le service et de proposer énormément de choses pour nos patients. On a un projet actuellement là qui est en cours aussi, qui pour l'instant est en pause, mais parce que la formatrice est absente.
Mmh.
C'est un chariot de Snozzelen.
Alors, c'est quoi ?
Alors, en fait, c'est un chariot un petit peu, on va dire, bulle de répit, avec des sons, des lumières, très zen, très apaisant, et c'est très relaxant. Et en fait, on attend justement une formatrice qui est une ancienne famille de patients qui suit énormément ce qu'on fait. C'est en partie grâce à eux, par exemple, qu'on a réussi à financer la télé avec un don très important. Et du coup, bah, voilà, grâce à elles, normalement, prochainement, on sera peut-être formés et on pourra du coup proposer ça à tous nos patients et en secteur et hors CHU grâce à l'équipe mobile de soins palliatifs.
Et donc ça, c'est un budget de... Vous avez déjà une idée un petit peu, Anaïs ?
Alors pour ça, non. Alors ça ira pour le coup parce que le chariot nous est gentiment prêté par le service de gérontologie parce qu'ils en ont un, qu'ils ont pu financer. Et la fameuse formatrice, donc c'est une ancienne famille de patients qui fera ça, ça gracieusement. Voilà, donc, voilà.
Tout ça, oui. Ça roule. Donc ça, c'est pour les projets, c'est pour la mobilisation. Vous travaillez avec d'autres associations aussi qui interviennent auprès de vous ?
Alors, association, non. Ouais. Pas forcément encore pour le moment.
Je pensais aux clowns. Il y avait les clowns qui tournaient, mais c'est plus pour l'hôpital des enfants,
ouais,
je crois.
Hein, c'est, oui. Ça, voilà. C'est plus pour l'hôpital des enfants. Pareil pour ceux des Dames Roses. Alors après, si on en a, on a la bibliothèque.
Ouais. Ah ben oui, les bibliothèques de l'hôpital.
Exactement, qui passent dans le service, qui sont très appréciés. Ouais. On a les bénévoles aussi, tout simplement.
C'est-à-dire ?
Alors en fait, c'est des bénévoles qui passent tel ou tel jour dans la semaine et en fait qui vont nous voir pour savoir quels patients ils peuvent visiter pour les patients qui sont seuls, les patients qui sont isolés. Et en fait, juste, ils vont les voir et ils vont discuter de tout et n'importe quoi. Et du coup, ça fait du bien.
Ça, c'est une association qui gère ça ?
C'est une association.
Laquelle ?
Oui. Et bien alors là, j'ai un méga trou, mais ça va me revenir.
Eh bien, on le remettra sur les réseaux sociaux.
Oui,
et j'en profite pour saluer André, que je connais bien, qui fait ça. Il le fait avec cœur. Une troisième date importante dans ta vie, je voulais terminer notre émission par ce clin d'œil à la vie, justement.
Eh bien, c'est la plus belle des choses, c'est la naissance de ma fille. Voilà, le 6 février 2023. Et ça montre que bah, la vie, c'est un cycle, mais ça commence, ça finit, mais c'est magnifique. Et du coup, voilà.
Un grand coucou et un grand bisou à Fleur. Merci Anaïs d'avoir pris le, d'avoir pris le temps. On retrouve toutes les informations sur Bulle de Vie. Je vois que vous avez un compte sur Facebook et c'est un Ruffoleur. Je n'ai pas le numéro de téléphone.
Alors, c'est plus un Ruffoleur maintenant parce qu'on a déménagé il y a un mois.
Alors,
donc,
c'est...
Ouais, alors là, du coup, c'est rue du Morvan. À Brabois.
Ah bah c'est de Brabois.
Au CHU de Brabois. Le numéro de téléphone, c'est 03 83 15 31 81.
15 31 80.
Exactement.
Bulle de vie.
Bulle de vie. Et le mail, c'est secrétariat.bulledevie@gmail.com.
Merci tout plein, Anaïs.
Merci beaucoup.